assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Comment aider les autres à traverser les épreuves de leur vie quand on est chrétien, mais pas pasteur? Alors pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Myriam Goffard, qui est psychothérapeute. Alors bonjour Myriam.
Bonjour Yolande.
On va commencer par les traditionnelles questions sur vous et votre engagement chrétien, comme il se doit dans cette émission. Alors, j'ai cru comprendre que vous êtes d'origine belge et catholique.
Tout à fait. Je suis née dans la province de Liège. J'y ai fait des études, au départ des études, ce qu'on appelle latines. Et puis, j'ai passé un diplôme d'assistante en service social, donc dans la ville de Liège. Et en effet, c'est une province qui est traditionnellement catholique. Donc, j'ai été élevée dans cette religion.
Voilà, donc éducation religieuse, parents pratiquants.
Mère et grand-mère très, très pratiquantes. J'ai été un peu élevée, ce que j'appelle dans ce triumvirat, avec le bourgmestre, le maire, comme on dit en France, le curé, très présent. Ma mère étant directrice d'école, ces personnes-là avaient une certaine influence dans le village. Donc j'ai suivi mon catéchisme, voilà, comme toute bonne petite citoyenne de ce village. Par contre, j'ai eu la chance d'être dans un lycée tout à fait laïque, avec de belles valeurs, plutôt catholique, mais qui avait le souci de respecter vraiment l'adhésion de chacun. Et cette expérience-là de mes 6 ans de lycée a été fondamentale après dans mon approche de la vie et dans mon regard des autres.
Et sur le plan du catholicisme, vous étiez plutôt une catholique heureuse en étant petite, ou vous aviez déjà des distances? Comment ça s'est passé?
Je pense que toute petite, ma première communion, comme on appelle ça chez les catholiques, qui à l'époque avait lieu à 6 ans, elle a été profonde et sincère, mais sans rien en dire. Voilà, tout, c'était quelque chose de très sincère et très simple. Par contre, petit à petit, je suis devenue, je pense, très protestante dans mon observation, mon écoute, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'écart, mais je ne pense pas que c'est que dans le catholicisme, bien sûr. Je dirais que plutôt c'est l'écart entre un discours religieux, des obligations ritualisées, et pour moi un comportement dans la vie qui était, pour moi, très éloigné de ce que j'imaginais qu'il était plutôt attendu dans une posture de chrétien, globalement. Et donc, ce qui a fait qu'à 18 ans, fort du premier petit copain de l'époque, cela m'a donné de la force de dire non, je n'irai plus à la messe et voilà, je n'aurai plus cette religiosité-là, parce que je l'appelle comme ça.
Donc, à 18 ans, vous vous éloignez du catholicisme sans reprendre tout de suite une autre spiritualité?
Ah non, à tel point que d'ailleurs, dans mes études d'assistante en service social, j'ai travaillé Nietzsche, j'ai travaillé Marx, je fais beaucoup de philosophie, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs. Et j'ai pris beaucoup de distance et j'en avais vraiment retenu que voilà, la religion, c'est l'opium du peuple.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que vous fassiez le pas vers le protestantisme?
Écoutez, j'ai été amenée à pouvoir avoir eu la chance de rejoindre le sud de la France. J'ai toujours eu depuis toute petite ce désir d'aller dans un autre pays, mais plutôt francophone, parce que je savais pas encore, j'étais malentendante et j'avais des difficultés pour comprendre d'autres langues que ma langue maternelle. Et donc, j'ai eu l'occasion de venir vivre en France, dans le sud, plus exactement à Uzès, dès 85. Et là, je découvre avec très grande surprise des personnes qui me disent « Ah, si tu es passé par telle pharmacie, c'est que tu dois être ou catholique ou protestante. » J'étais très, très étonnée. Donc, j'ai découvert encore toute la force de l'histoire de la région.
Vous finalement. Connaissiez l'histoire du protestantisme français ou pas du tout?
Très, très peu. J'avais juste été amenée à rencontrer un responsable du protestantisme pendant que j'exerçais en Belgique, parce qu'en Belgique, il y a une obligation quand on travaille dans des structures hospitalières, des structures d'accueil, de toujours vérifier la personne si elle souhaite, si elle en avait besoin, une écoute plus particulière, religieuse ou laïque, et de multiconfessionnelle. Donc j'avais été amenée à me rapprocher de référents protestants, mais après, en fait, je n'ai jamais eu l'occasion de le solliciter. Donc j'ai vraiment découvert cela dans mon installation à Uzès. proche des Cévennes. Et j'ai compris que nous étions proches des Cévennes et que l'histoire des Cévennes était évidemment extrêmement chargée.
Et là, vous devenez protestante. Pourquoi ? Comment s'est passé le déclic d'aller vers la religion protestante ? Je ne parle pas encore de la structure, mais de la spiritualité protestante ou de la philosophie protestante.
Ça s'est fait dans une rencontre complètement accidentelle. Une panne de voiture où quelqu'un gentiment se propose de me dépanner et surtout de m'amener à la réunion à laquelle j'étais attendue. Et dans ces échanges qu'on peut avoir pendant une demi-heure de trajet de voiture, on parle bien sûr de tout, de rien. Et puis, je parle un petit peu parce que j'ai assez de facilité pour parler de mes questionnements, de mes réflexions du moment. Et voilà que cette personne me dit « Ah mais ça, il y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans ces situations. » Là, je l'ai regardé assez ébahi, mais très vite énervé. Mais alors énervé, en disant non, c'est bon, ça va, j'ai donné, je ne veux plus en entendre parler, ce n'est juste plus possible. Voilà, j'ai vécu dans une tradition. Et là, cette personne qui me dit, mais ce n'est peut-être pas ce Dieu-là auquel moi je pensais particulièrement. Et là, ça m'a interrogée, ça m'a beaucoup questionnée. Et c'est cette personne qui, quelque part, m'a amenée à découvrir le milieu protestant.
Alors, ce milieu protestant, vous faites partie d'abord d'un groupe charismatique, on ne va pas dire lequel, mais non affilié à la Fédération protestante de France.
Oui, toutes ces choses me dépassent complètement, Yolande. Je ne connais rien, mais rien de la culture protestante, ni ses affiliations, ni ses spécificités.
De toute façon, il faut reconnaître que c'est très compliqué. Même les protestants eux-mêmes d'origine ont du mal à s'y retrouver.
Alors, ça me rassure vos propos. Mais vous savez tout ce que j'ai aimé. Il faut être très honnête et très humble. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'était un lieu qui ne représentait finalement rien du sacré. C'était du béton, des chaises en plastique et des guitares et je ne sais pas, une flûte ou je ne sais plus ce que c'était comme instrument. C'était jovial, c'était joyeux. Il n'y avait plus aucun signe parce que j'ai passé quand même une période très rude, mais dont je n'avais pas tout à fait conscience. Je ne supportais plus aucun édifice religieux. Je ne voulais plus y pénétrer. Et là, en fait, ce béton, qu'aujourd'hui, j'apprécie, moi. Mais à cette époque, j'avais une trentaine d'années, c'est ce qui m'a permis de renouer, en tous les cas, d'accepter de reprendre une réflexion, d'autant plus que mon superviseur de l'époque, parce que vous savez que tout psychothérapeute et psychanalyste a une obligation d'être supervisé ou d'être en contrôle suivant nos obédiences, m'a dit, quand j'ai commencé à le questionner, il m'a dit « Ah ça, Myriam, ce n'appartient pas, ce n'est pas une réflexion qui concerne votre travail analytique, c'est une réflexion spirituelle, ce n'est pas à moi à vous accompagner. » Je dois dire que j'ai été dépitée.
Alors, donc, si je comprends bien, c'est l'absence de décorum religieux qui vous a attiré. Alors, c'est intéressant parce que il y a toujours le débat, justement, quand on veut revendre les temples et puis DF parce que ils servent plus à rien. Il y a des gens qui montent tout de suite au créneau. C'est le lieu presque sacré. Alors, je rappelle qu'en France, dans le protestantisme, il ne devrait pas y avoir de sacré. Si on peut se rappeler la conversation que j'ai eue avec Michel Fréchet au micro de Thème et Anathème. Enfin bon, ça c'est un aparté. Et il y a eu un numéro du CEP sur les temples protestants et dès qu'on parle de vendre un temple ou de le prêter à une association, il faut voir les levées de boucliers de gens qui disent « mais c'est nos pères, nos grands-pères, voilà ». Et donc vous, votre témoignage est intéressant parce que c'est justement l'absence de cette mystique dans les bâtiments qui vous a attiré.
Enfin, en tous les cas, qui m'a permis de reprendre mon cheminement, ce qu'on appellerait plutôt psychospirituel, je préfère le nommer comme tel. En tous les cas, c'est grâce à cela. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, je suis réconciliée avec tout cela et aujourd'hui, je peux être très bien et j'aime aller dans des édifices religieux, d'ailleurs, de quel qu'il soit, tu peux y trouver une grande paix, mais ça dépend. Les énergies ne sont pas les mêmes dans tous les lieux, mais je suis tout à fait tranquille maintenant avec un temple. C'est vrai que j'aime son dépouillement, mais j'aime aussi beaucoup des architectures de très belles églises, de très belles cathédrales. Mais ça m'a permis, c'est bien pour ça que je préfère toujours qu'on n'ait pas de dogme, pas d'a priori. pour moi, c'est fondamental, mais plutôt d'être à l'écoute de ce qui est le plus favorable pour l'autre, suivant son histoire et suivant sa sensibilité.
Alors là, c'est le thérapeute, ou la thérapeute plutôt, pardon pour ce slip de langage, c'est la thérapeute qui parle. Et donc, dans ce groupe, comment ça se passe? Vous êtes bien accueillie, je suppose? Vous êtes heureuse?
Je suis très bien accueillie, c'est joyeux, c'est généreux. Et puis en même temps, très très rapidement, et là je dois dire que j'ai de nouveau passé un moment extrêmement rude dans ce cheminement spirituel, c'est que j'ai compris qu'à de nouveau, il y avait beaucoup de certitudes, beaucoup de dogmes, beaucoup d'a priori, d'autant plus que j'étais une femme seule avec ses deux enfants, et qu'il y avait comme une espèce de morale qui prenait appui sur une certaine interprétation du texte biblique pour lequel je ne me retrouvais évidemment absolument pas, d'autant plus avec l'enfance que j'avais vécue dans ce catholicisme très religieux. Et là, j'étais vraiment très mise à mal avec tous ces aspects-là. Et ça m'a conduit à vouloir m'intéresser plutôt, à me cultiver par moi-même, à faire mes recherches moi-même et à partir en faculté de théologie.
Alors, vous êtes psychothérapeute, vous l'avez dit, et comment ça se passe avec le groupe, ce groupe charismatique, comment ça se passe, votre profession de psychothérapeute?
Ma profession semble mettre à mal beaucoup, je ne dis pas tous, hein, mais beaucoup, surtout ce qu'on appelle dans ce milieu-là les anciens, et dès lors... il m'est quand même beaucoup interrogé sur la pertinence d'être psy, comme ils disent. C'est vrai que les signes sont compliqués pour s'y retrouver. La pertinence d'être psy quand on est chrétien, avec beaucoup de personnes qui ont une approche qu'on appelle extrêmement binaire de l'être humain, ce qu'on appelle une conception anthropologique de l'être humain, et considérant que si on est chrétien, on a l'esprit de Dieu, on l'a, donc déjà moi ça me met un peu à mal, hein. Et si on a l'esprit de Dieu, on n'a pas besoin de s'occuper de notre psychisme parce que c'est le Seigneur qui fait tout dans notre vie.
Alors, je voudrais qu'on explique binaire, qu'est-ce que c'est? C'est oui, non, zéro, un?
Oui, c'est à peu près ça, c'est exactement ça, c'est aussi notre système informatique en ce moment, hein. Je pense d'ailleurs qu'il nous met d'ailleurs beaucoup à mal, parce que cette pensée binaire, c'est juste le Seigneur et notre corps, hein, ce qu'on appelle le corps et l'esprit. Pour d'autres, quelque part, qui ont plutôt tenté de vouloir jeter l'anathème sur l'esprit, c'est devenu juste corps et âme, et ça a fait l'inverse. Tout est psy, hein, ce qui n'est pas mieux, ce qu'on appelle un primat d'un aspect sur un autre, et dès lors qu'on est dans une pensée binaire, ça devient extrêmement stérile, ça conduit à de la violence, à des dogmes, parce que ça devient du ou, et on n'a pas de choix, il n'y a pas de possible, il n'y a pas de possibilité tierce. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre, et j'ai fait de belles rencontres à la fac de théologie, et j'ai rencontré des professeurs extraordinaires, dont celui qui m'a particulièrement sensibilisée à la pensée lacanienne, avec ces trois registres, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ces aspects, d'autant plus que, personnellement, il y a un verset qui m'a beaucoup, beaucoup interrogée et qui, après, a réorienté toute ma conception de l'être humain et de mes accompagnements, quels qu'ils soient en thérapie, en analyse, en coaching ou en supervision, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, reçois cette paix de Dieu en esprit, âme et corps. Bien sûr, je ne suis pas du tout une spécialiste de théologie, ce n'est pas ça que j'évoque. Hein. C'est vraiment comment moi, à travers ce verset, pour moi qui a été un peu un instrument, un support, j'ai été sensibilisée à cette pensée ternaire de l'être humain et de l'analyse de toute cette organisation humaine.
Alors, la faculté de théologie, c'est Montpellier, c'est pas vraiment une faculté de théologie aimée par les groupes charismatiques. Ils ont accepté votre...
Ah non, non, la première pensée qui s'est exprimée, c'est « Ah, si tu fais la fac de théologie, tu vas perdre ta foi. » Donc, bon. J'étais un peu étonnée, j'avais envie de leur envoyer quelques pensées pascaliennes. Et donc, au contraire, ça m'a permis de creuser, mais je pense que de toute façon, tout cheminement psychospirituel, ça passe par des crises, par des questionnements, par des doutes, et pour moi, c'est d'ailleurs le cheminement le plus sain, c'est que ça passe par des doutes, par des épreuves, par des questionnements, c'est pas un long chemin tranquille.
Non, non, non. Et alors, donc vous avez été, on n'a pas apprécié votre profession. Comment vous-même avez vécu cette dichotomie entre pratique religieuse, charismatique et psychothérapie, analyse, etc. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile?
Ben, ça a été une épreuve, donc ça a été très éprouvant, mais en fait, ça a permis en fait, finalement un positionnement beaucoup plus créatif de ma part. Je vous en reparle aujourd'hui dans l'après-coup, parce que pendant, évidemment, la situation est toujours difficile, l'expérience est rude. Mais en fait, grâce à ce verset que j'ai reçu, c'est vraiment quelque chose qui m'a dessillé les yeux. Et j'ai compris en fait que c'est la ternarité qui va me permettre de reprendre mon vécu, mon expérience et d'accompagner différemment et de comprendre différemment les problématiques des personnes évoquées ou des organisations. Parce que en fait...
Alors, ternarité, est-ce que vous pouvez expliquer?
Alors, le ternaire, alors moi j'aime bien le faire penser aussi avec trois cercles. Imaginez trois cercles, on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, on a vu les nœuds olympiques. On imagine trois cercles, mais un peu particulier parce que ces trois-là, eh bien ces trois-là, quand on en coupe un, les deux autres se dénouent. Ça s'appelle une propriété borroméenne. Je vais vous sortir le gros mot, mais c'est quand même le terme officiel. Je ne peux pas.
Bah oui, on est là aussi pour faire avancer les choses.
C'est ça. Et donc, cette propriété borroméenne de ces trois nœuds qui tiennent ensemble, ça, c'est ce que Lacan a bien développé avec l'aide de grands mathématiciens. Eh bien, ça veut dire que si on en dénoue un, que les tous dénouent, ça veut dire qu'il n'y a pas de primat d'un aspect sur l'autre. Donc, il y a non seulement la ternarité qui, pour moi, est essentielle, parce que c'est cette triangulation-là qui permet de bien appréhender la complexité de toute situation. Donc, ce n'est pas ou corps et esprit, ou corps et âme, corps, psychisme, mais c'est corps et âme et esprit. La psychanalyse ne peut pas vraiment tuer au nom de l'inconscient toute spiritualité, et la spiritualité ne peut pas évacuer tous les problèmes psychiques. Ce n'est pas possible. Mais chaque instance a autant d'importance que les deux autres. C'est-à-dire pas de primat d'une instance sur les deux autres. Et c'est à partir de ces apports-là, si vous voulez, que je me suis remise au travail. Donc, j'ai refait aussi plus tard une thèse sur la question justement de la sensibilité du sujet. Et j'ai voulu justement trouver des concepts, une pensée qui permette d'appréhender les situations justement de face, qui permette de dépasser cette binarité si violente et si culpabilisante surtout.
D'accord. On va revenir justement sur le côté ternaire puisqu'on va parler de l'analyse tridimensionnelle. Mais auparavant, je voudrais vous poser une question. Donc vous avez retrouvé une autre communauté protestante, donc qui est plus facile à vivre quand on est qui a moins de certitudes.
Tout à fait, parce que évidemment fortement un petit peu de mes lectures et de mes études en théologie, j'ai commencé un petit
vous
peu...
Avez fait, vous avez été jusqu'où en théologie?
Écoutez, j'ai pu faire toutes les... J'ai passé toutes les UC, je pense qu'on les appelle, enfin les unités de valeur, les unités capitalisables peut-être, sans avoir à travailler sur vraiment les textes dans la langue d'origine, parce que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu avoir la chance de travailler mon grec et mon hébreu suffisamment. Et donc, ça m'a donné ce qu'on appelle un certificat de capacité en théologie.
D'accord. Et donc, grâce à ces études, finalement, ça vous permet de vous rapprocher d'une communauté plus...
C'est ça. Je trouvais... Alors, je ne voudrais pas que ce soit entendu comme un jugement de valeur, mais c'est complètement par rapport à mon histoire et à ma sensibilité, un espace où je me sentais davantage respectée, comme ce qu'on appelle en psychanalyse, en tant que sujet... De ma parole, dans le respect de ma vie, de ce que je recherchais, et avec des prédications que je trouvais très, très approfondies. Et donc, c'est aussi par toujours le hasard, alors je ne sais pas comment l'écrire, certainement avec un grand D, des rencontres où j'ai pu rencontrer un pasteur qui était donc dans ce qu'on appelle l'EPUDF, donc l'Église protestante unie de France, et qui m'a fait rencontrer, en fait, tout simplement, ce qu'on appelle la paroisse d'Uzès, qui m'y a introduit. Mais là, petite ironie du sort, quand le jour où il m'a introduit, il m'a dit « Ah, j'avais oublié de te dire, aujourd'hui, le temple est fermé. » Le culte se fait dans la vallée de l'Eure, sous une grande tente. Et j'ai trouvé ça, évidemment, l'humour de Dieu extraordinaire. Il savait mon histoire, il sait ma sensibilité. Dans un temple, on va y aller tout doucement. On va commencer sous une tente. Vous ne pouviez que vous rappeler de Moïse et d'Élie et tous les autres. Bon.
Voilà, d'accord. OK. Et donc, alors finalement, vous êtes bien dans cette communauté. Vous y avez des responsabilités.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a sollicité pour devenir membre du conseil parce qu'il y a eu quelques difficultés, des conflits. Et c'est vrai que souvent, les conflits dans nos églises, on ne sait pas bien les appréhender. Ils ne sont pas toujours... il n'y a pas beaucoup de personnes soutenantes dans les situations de conflit, justement, qui viennent faire fonction tierce, que pour moi, on pourrait attendre d'une région ou de responsables qui viennent toujours apporter cette fonction tierce. Et on m'a un petit peu sollicité à cet endroit-là. C'est vrai que j'y suis très, très attentive à cet espace-là. Pour aider un petit peu à dépasser les crises. Et on n'y a pas trop mal réussi, puisqu'avec les trois nouveaux conseillers, il y a eu beaucoup de belles réconciliations. Les anciens conseillers ont pu revenir. Et nous avons maintenant pu avoir la chance d'accueillir une nouvelle pasteur qui a été aussi souvent mise à mal par des conflits. Donc, je suis très attentive à cet aspect. Et aujourd'hui, en ce moment, j'ai des fonctions un peu plus spécifiques de secrétaire.
D'accord. Alors, je rappelle que ici, à ce micro, au micro de thème et anathème, on a parlé avec le professeur Frédéric Rognon sur les problèmes des communautés protestantes. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre émission plus spécifique, parce qu'effectivement, la gestion des groupes dans le protestantisme et à côté du protestantisme est assez compliqué, et donc il y a du travail. Je peux vous le dire de mon expérience.
Nous sommes d'accord. C'est d'ailleurs, je pense que c'est la Fédération protestante qui a créé un groupe et qui permet aux régions, quand elles observent qu'il y a leur responsable, pasteur ou autre, en difficulté, qui permet de subventionner un petit peu, de participer aux aspects financiers d'un accompagnement de professionnels que nous sommes, tous engagés selon nos convictions. Il y a des protestants, des catholiques, plus ou moins pratiquants ou pas, des professionnels avec un code de déontologie et une éthique qui peuvent accompagner toutes les personnes en responsabilité, parce que c'est vrai que c'est très difficile de tenir son poste, de tenir sa place, de tenir son cadre. Et pareil, c'est toujours pour moi cette fonction tierce. Il n'y a pas un tiers qui nous aide à être garant de la bonne distance que nous avons dans les situations. C'est très, très difficile de tenir.
Alors, on en reparlera certainement parce que ça m'a l'air très intéressant pour nos églises et pour nos groupes aussi, tous les groupes qui tournent. Je ne parlerai pas de notre radio, mais tous les groupes qui tournent autour du protestantisme. La gestion des groupes, le problème de la contenance, le problème du respect des autres, le problème, tout ça, c'est effectivement un très vaste programme. Alors, on va revenir à votre fonction d'analyste tridimensionnel. Donc, on a compris que vous n'aimiez pas beaucoup la bipolarité, vrai ou faux, 0, 1, etc. Tridimensionnel, c'est comme Trinité.
Tout à fait. C'est-à-dire que l'analyste tridimensionnel, c'est celui qui a un regard face à lui-même, face aux autres, face à ses proches, face à son prochain, face à sa vie personnelle, face à sa vie professionnelle. Il a toujours ce souci de ce regard, triple sur la personne ou l'organisation qu'il rencontre. C'est-à-dire, il a toujours le souci d'être attentif à ses ressources somatiques ou matérielles pour une organisation, à ses ressources psychiques, les ressources humaines pour une organisation, et à sa dimension, ce que moi j'ai appelé pneumatique, c'est-à-dire le pneuma en grec, c'est le souffle de vie, c'est-à-dire ce qui l'anime dans sa vie, c'est-à-dire ce qui fait source de vie pour elle. Un analyste tridimensionnel, c'est celui qui a vraiment le souci de réhabiliter l'humain dans ses trois instances et qui a le souci de l'éveiller ou en tous les cas de le soutenir, de l'encourager à être attentif à ce qui fait source de vie pour lui, bien sûr dans le respect de ses valeurs et sans aucun prosélytisme. Nous avons une obligation d'abstinence, de neutralité, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va faire source de vie pour elle, malgré parfois tous les aléas qu'on peut rencontrer dans notre santé et dans nos petits soucis psychiques, notre vie affective, notre rapport à la compréhension des choses, des événements, au sens que nous pouvons donner. mais d'être très attentif à ce qui va lui permettre de transcender tout cela.
Alors, on va voir plus profondément, mais ça me fait penser à la conception tridimensionnelle aussi du professeur André Gounel, qui explique dans ses cours en dogmatique que le protestantisme, il y a toujours trois courants. Il y a le courant rationnel, exégétique, qu'on pourrait appeler libéral, même s'il n'aime pas trop ce terme, mais disons basé sur la raison, sur la critique. Il y a le courant orthodoxe qui est plus sur les doctrines. On ne parle pas de dogme en théorie dans le protestantisme, même si on vient de le voir, la théorie n'est pas toujours vraiment suivie par la pratique. Et puis, il y a le côté piétiste. Et il nous avait expliqué que une bonne, entre guillemets, prédication, pas seulement dans le sens de prédication qu'on fait le dimanche au culte, mais une bonne approche de la théologie, mêler ces trois éléments qui étaient toujours en tension. C'est un peu votre truc, finalement.
Tout à fait. Et ce n'est pas que le mien. Hein. Moi, je l'ai reçu, je lui dis, dans cette expérience, dans cette traversée, grâce à ce verset qui m'a mise au travail et donc qui m'a permis de fonder cette analyse tridimensionnelle, tout au départ, d'ailleurs, qui s'est d'abord appelé Emet, parce qu'en Emet, en hébreu, ça m'avait été un petit peu proposé comme exprimant ce que je souhaitais exprimer.
Ça veut dire quoi?
Émettre en hébreu, on peut l'entendre. Hein, vous savez qu'en hébreu, il y a différentes toujours, traductions possibles, suivant les voyelles qu'on rajoute. Mais bon portage, solidité, et surtout, c'est d'entendre...
Bon portage, attendez, j'ai pas compris.
Bon portage, c'est-à-dire au sens de Winnicott, comme si on porte bien un enfant, vous savez, un bras solide qui porte.
D'accord.
Être bien soutenu, être bien porté.
D'accord.
Et c'est surtout que Emmet peut aussi aborder la question de la vérité, qui est évidemment une question énorme, hein,
oui.
La question de la vérité, et que du point de vue de l'hébraïsme, eh bien, la vérité s'entend toujours comme une vérité qui n'advient qu'à partir de la relation à l'autre. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On n'advient à notre propre vérité qu'à partir de notre relation à l'autre. Donc, est une pensée un petit peu différente, par exemple, que la pensée plus rationnelle de grec ou d'autres philosophes. Et cela voulait dire tout ça. Mais j'ai compris après qu'Emmet a été trop dévoyé et que ça peut être aussi interprété comme très proche de la mort. Et moi, je veux apporter une parole de vie. Donc, c'est ce qui fait que j'ai arrêté ce terme, Emmet, et que maintenant, c'est devenu l'analyse tridimensionnelle, tout simplement. Ça me paraît beaucoup plus clair.
Thank you.
Alors, vos patients, ils sont envoyés par qui ? Ils sont souvent chrétiens, pas forcément. Comment ça se passe ?
Il y en a, parce qu'ils savent qu'ils vont être entendus justement sans être jugés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été jugés dans une approche binaire. Pareil, si tu as des problèmes, prie et tout va aller mieux. Vous savez, un peu cette pensée magique, hein, toujours du tout petit. Et donc, très coupable. Donc, ils savent que là, ils vont être aussi bien respectés dans leur foi, mais qu'ils vont être entendus dans le respect de leurs problématiques sans aucun jugement et dans cette ouverture-là. Donc, il y a de nombreux chrétiens qui me sollicitent, mais il y a aussi les médecins qui m'envoient leurs patients, des collègues. Et puis toute personne parfois qui sont un peu en recherche et qui ont dû cliquer sur ce mot d'anthropologie ternaire, ça les intéresse ou parfois ça les rend un peu curieux. Et puis voilà, ils arrivent finalement.
Alors, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous avez remarqué une différence de problème entre les patients chrétiens ou les patients athées ? Et est-ce que vous, ça vous change ? Est-ce que vous changez votre façon de procéder entre un chrétien ou quelqu'un qui ne l'est pas ?
Parfois, pour ceux qui sont davantage athées, je vais plutôt peut-être justement les éveiller à la question de ce qui fait source de vie pour eux. Cette question peut un peu les interpeller, mais les rend extrêmement heureux, libres et joyeux de pouvoir ouvrir cette partie qu'ils percevaient comme quelque chose de fermé entre eux, mais ils ne savaient pas le nommer, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, il y a vraiment ces personnes-là qui n'ont pas pris l'habitude d'être attentives à cet aspect. Et ça, vraiment, ça les ouvre à de belles interrogations, de beaux questionnements, de belles expériences. Les chrétiens, ça va être un peu l'inverse. C'est que mon accompagnement va avoir le souci de ne pas les diviser davantage par rapport à leur foi, mais de respecter leur foi. Je m'y intéresse. Par contre, je veille à ce que, en quoi leur foi, elle est vivifiante. En quoi est-ce que leur foi les ouvre à la vie ? Et ne les met pas davantage, je suis désolée, je vais peut-être choquer, mais je vais oser le dire, sous emprise de mort. Parce que le religieux, ce n'est pas du bon en soi. Une conversion, ce n'est pas du bon en soi. Une compréhension chrétienne, ce n'est pas du bon en soi. J'aurais même tendance à dire qu'il n'y a rien qui, dans cette vie, dans la création, n'est bon en soi. Il n'y a pas d'absolu. Il y a plutôt la responsabilité de l'humain d'en faire de suffisamment bon de ce qui lui arrive et de ce qui se passe. C'est une question de responsabilité.
Alors concrètement, ça me fait penser à ce qu'on a évoqué en discutant juste auparavant. Vous avez parlé du sauveteur. Le sauveteur, c'est quelque chose de bien quand même. Quelqu'un qui va risquer sa vie pour vous sauver. Et vous avez une approche un peu négative de ce sauveteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, parce que là, c'est ma relecture qui m'appartient en propre. Hein.
Oui.
Il me semble que quand on est protestant, on assume notre parole, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Eh bien, c'est que, quelque part, il me semble que le Christ, il nous apprend à ne jamais être sauveteur, mais uniquement sauveur. D'ailleurs, il y a des propos extrêmement choquants dans la Bible. Tout le monde a peur, il est dans sa barque, il dort, il n'en a rien à faire de personne parce qu'il a besoin de se reposer. Je vais en faire une interprétation
oui.
très pragmatique hein, et un peu provocatrice, vous avez bien compris. Je ne veux pas fâcher les théologiens. Mais il le montre régulièrement combien, si pour moi, jusqu'au bout, il a été parfaitement Dieu, il me semble que c'est quand même ce que nous professons, au sens de profiterie, hein, ce que nous adhérons, eh bien c'est parce qu'il n'a jamais fait que sa part, toute sa part et rien que sa part. Il a été sauveur jusqu'au bout. Il ne s'est pas sauvé lui-même, mais il n'a pas été complaisant non plus. Si on ne veut rien de lui sur la croix jusqu'au dernier souffle, il y en a un qui n'a tort rien, ben il a tort rien, il ne se passera rien. Il est respecté dans son rien. Il ne va pas dire « mon Dieu, il ne me demande rien, qu'est-ce qui va lui arriver, il n'est pas sauvé, il est foutu ». Non, c'est un respect absolu jusqu'au bout, il ne bouge pas. Il y a celui à côté qui dit « si jamais tu avais une petite pensée pour moi, je veux bien ben, ». Pas de souci, j'aurai une pensée pour toi, je serai là aussi avec toi, ou tu seras avec moi, enfin on prend comme on veut. Et donc c'est pour moi la référence qui, jusqu'au bout, a été sauveur et jamais sauveteur. Évidemment, nous, on n'est pas Dieu, on chute très régulièrement. Et on se retrouve à être sauveteur parce que pour garder cette juste place, cette juste distance, c'est toujours faire appel justement à une instance tierce qui vient nous solliciter, nous interroger, qui peut être par exemple pour le protestant, sa relation personnelle avec le Seigneur, mais c'est surtout le Seigneur qui se manifeste dans toutes nos rencontres.
Et alors, le sauveteur, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que là, vous avez bien défini le sauveur, on a compris, hein, c'est Jésus qui en est la parfaite image, qui respecte l'autre, qui vient le sauver si l'autre le demande. Alors que le sauveteur, c'est pas ça. C'est quoi sauveteur ?
Et non, le sauveteur, excusez-moi, mais je veux dire, c'est celui qui voit l'autre sur la croix, qui ne dit rien, qui va dire « Mon Dieu, c'est pas possible, mais s'il meurt sans me rencontrer, sans rencontrer le Seigneur, il est foutu, il faut à tout prix, et alors je vais assister. » Aujourd'hui, ça s'appellerait du harcèlement, hein, dans notre vie laïque. Aujourd'hui, on a beaucoup ce terme en bouche. Ben, il va le harceler, bon, il va le culpabiliser, même, je suis un peu dure, hein. C'est pas du jugement, hein, mais c'est la personne, l'autre va se sentir coupable si jamais il ne fait pas ce qu'il faut, s'il ne fait pas ce qu'il faut pour se convertir, s'il ne fait pas ce qu'il faut pour être apprécié dans nos églises, mais quand même, tu peux pas dire non, on peut pas dire non à quelqu'un qui demande de l'aide, si on te, tu peux pas. Et donc, il y a quand même beaucoup de formes de culpabilisation qui font que ce qu'on appelle on cède, de verbe céder, pas.
Oui, on cède, hein, on cède avec un C.
En terme de cession, hein.
Ouais.
Pas d'aide.
Oui, oui.
Voilà, hein, ouais. Soutenante. On cède ce qu'on appelle sur notre désir. Et ça, c'est un peu, pour moi, un impératif, mais par contre, qui est quand même repris par quelques grands psychanalystes et aussi des professeurs, des théologiens qui se sont inspirés de l'approche lacanienne et qui apprennent à ce qu'on appelle ne pas céder sur notre désir profond. Alors, le désir, ce n'est pas mon désir du quotidien de boire mon chocolat chaud. Hein, je ne parle pas de ce désir. C'est un désir avec un grand D, le désir vivifiant, celui qui nous anime au plus profond de nous, qui peut même être vocationnel. Et celui-là, si on cède sur ce désir-là, eh bien, on cède sur notre impératif éthique de rester nous-mêmes, je veux dire, en verticalité jusqu'au bout, mais en horizontalité avec nos frères et sœurs.
Si je comprends bien le sauveteur, parce que j'essaye de traduire en langage un peu plus simple.
Très bien.
Si je comprends bien le sauveteur, c'est celui qui va dire toujours oui, même s'il n'a pas envie de dire oui, grosso modo, parce qu'il est poussé par une forme de devoir mal compris.
Exactement, ça peut être encore un devoir parental, éducationnel, qui est encore très présent, parce que cette mémoire, la mémoire la plus archaïque en nous, c'est une mémoire terrible qui fait toujours surface. D'ailleurs, dans le vieillissement, c'est celle qui est la plus présente. Cette mémoire archaïque de nos préceptes éducatifs reçus. Fais plaisir, sois gentil, sois parfait, fais pas de vagues, sois fort. L'analyste transactionnelle a beaucoup repris tout ça et explicité. Et donc, on a encore cette voix parfois qui peut être très prégnante, surtout si on se sent un petit peu stressé. Et puis, parfois, justement, certaines interprétations de textes religieux peuvent renforcer cela, cette espèce qu'on appelle en psychanalyse notre surmoi féroce qui vient dire tu peux pas dire non, tu dois être gentil, tu dois faire plaisir et en plus si tu es chrétien, tu dois être au service. Mais il me semble que justement nous n'avons pas cette figure-là, nous les protestants.
Donc, merci Myriam. Donc, finalement, je retiens qu'il faut savoir dire non. Et bon, ça me fait plaisir parce que c'est un peu un problème que... Il y en a beaucoup qui me disent « mais je ne sais pas dire non ». Moi-même, j'ai du mal. Donc, vous nous apprenez à savoir dire non.
Oui, de tenir digne en tant qu'être humain et de bien entendre que si psychiquement, bah, parfois on a toutes ces faiblesses liées à notre culture, notre histoire, etc., eh bien, cette source de vie en nous va nous donner la force d'être le plus ajusté possible à l'image de Christ.
Eh bien, merci beaucoup Myriam Goffard. Donc, je remercie nos auditeurs de leur fidélité et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.